Vous écoutez RTL.
Posez toutes vos questions à l'invité de RTL Matin en appelant le 3210.
Le général Pierre de Villiers, donc, restez avec nous pour débattre, pour discuter, pour répondre à toutes vos questions. Je vous rappelle que son livre « Servir » paraît aux éditions Fayard. Et tout de suite, eh bien, Benjamin Pierre de Villiers va vous interroger. Bonjour Benjamin, le général de Villiers vous écoute.
Bonjour mon général. Voilà, j'ai Benjamin, 10 ans d'ancienneté, enfin 10 ans de service dans l'armée. Ma question est simple, nous avions besoin de vous, hein, et de vos idées. Pourquoi ne pas avoir essayé d'arrondir les angles et régler les problèmes plutôt que de partir ?
C'est une très bonne question, parce que finalement, ce qu'on découvre dans votre livre et que vous confirmez il y a quelques instants, Elisabeth Martichoux, c'est que tout cela s'est joué pour 850 millions. Et on se dit qu'on aurait pu trouver un terrain d'entente. Mais enfin, je vous laisse répondre directement à Benjamin.
Benjamin, bonjour. Je suis heureux de cette question parce que c'était la question centrale pendant plusieurs jours que je me suis posée. L'honneur et la poésie du devoir, j'ai estimé qu'il fallait partir. Ce n'est pas un abandon, même si cela, évidemment, vous vous en doutez, m'a coûté parce que j'avais un attachement absolu à nos soldats marins et aviateurs. Mais j'ai estimé que le lien de confiance qui est très important entre le chef des armées, président de la République, et le chef d'état-major que j'étais, était suffisamment abîmé pour que on désigne un successeur qui le rétablisse. Au-dessus de tout, il y a la France et il y a les armées françaises et les valeurs que j'incarnais comme chef d'état-major. C'est cela qui a primé. Je suis sûr qu'avec mon successeur, les armées sont dans de bonnes mains et qu'elles seront bien commandées et que, Benjamin, vous pourrez continuer à exécuter votre mission avec honneur et fidélité.
Merci beaucoup, Benjamin, de nous avoir appelés. Vous nous téléphoniez depuis Dunkerque, dans le Nord. On va tout de suite donner la parole à Evelyne, qui elle, nous appelle de Mantes-la-Jolie, dans le département des Yvelines. Evelyne, c'est à vous.
Oui.
Le général de Villiers vous écoute.
Oui, bonjour, c'est Cadouille. Bonjour, général. J'ai une question à vous poser pour nos jeunes. Mon fils veut être pilote de chasse. J'ai un de mes neveux qui veut être dans l'armée de terre. Face à ce manque de moyens de l'armée, la France a des très beaux avions, elle ne peut pas les faire voler. Que dire à ces jeunes qui veulent s'engager ? Non, c'est une fille bouchée qui n'a plus d'avenir.
En fait, que leur conseillez-vous ?
Oui.
Alors moi, je voudrais vous dire quelque chose de très, très clair là-dessus. Nous avons de belles armées. Nous sommes les deuxièmes armées aujourd'hui en termes d'engagement opérationnel dans le monde occidental avec 30 000 soldats en opération. Et je me suis battu pour avoir les ressources nécessaires précisément pour que ça continue et qu'on puisse rénover ces armées le plus vite possible parce que nous sommes un peu au-dessus de nos capacités aujourd'hui, et puis les moderniser et que les avions volent, que les bateaux naviguent et que les engins roulent face à cet ennemi terroriste, islamiste, radical. Vous pouvez dire à tous ceux qui s'interrogent qu'ils seront heureux. Ils seront heureux parce qu'ils trouveront les valeurs qu'ils cherchent. Ils donneront à leur vie du sens. Ils trouveront cette vraie fraternité que l'on cherche parfois ailleurs. Et moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'ils trouveront ce mot au cœur de leur vie, « servir », qui est le titre de mon livre. Et je leur conseille de lire ce livre. Ils trouveront les raisons d'espérer.
Mais donc, vous dites à Evelyne que son fils peut s'engager et peut envisager une carrière de pilote de chasse.
Bien sûr.
Quelles que soient les difficultés, par ailleurs, budgétaires de l'armée française.
Bien sûr.
Je suis un petit peu obsessionnel, général de Villiers. Je reviens quand même à ma question initiale. 850 millions, c'est une goutte d'eau dans un budget de 35 milliards, finalement. Et du coup, on continue de s'interroger sur votre motivation.
Malheureusement, les Français savent que ce n'est pas une goutte d'eau. Vous vous rendez compte, 850 millions, quand vous raisonnez comme un citoyen français. Tout ce qu'on peut faire avec 850 millions d'euros. On fait beaucoup de choses. On fait beaucoup de choses pour la vie quotidienne du soldat. Et aujourd'hui, quand vous voyez que les gilets pare-balles que nos soldats portent, c'était les mêmes en 99 quand j'étais au Kosovo. Quand vous voyez que certains de nos avions, madame parlait des avions, les avions ravitailleurs, 50 ans en moyenne. La flotte de transport aérienne, 40 ans. Les bateaux, certains ont 40 ans et sont dans un état quand même difficile. 60% de nos véhicules en opération ne sont pas blindés.
Je vais au bout de votre logique. Est-ce qu'avec 850 millions manquant au budget de nos armées, on met en danger nos militaires, Pierre de Villiers ?
Je dis que la régénération du modèle d'armée, elle ne peut pas attendre et que l'effort financier qui est fait, qui est réel et que je ne nie pas dans le contexte difficile actuel au plan économique, pourrait être plus élevé et devrait être plus élevé si l'on veut donner les moyens à nos soldats qui le méritent et qui, eux, donnent tout à la France, y compris jusqu'à envisager de donner leur vie.
On poursuit cette conversation avec les auditeurs d'RTL. Merci beaucoup, Evelyne, de nous avoir appelés. C'est Simon, maintenant, qui va s'adresser directement à vous, Général de Villiers. Bonjour, Simon, nous vous écoutons.
Bonjour. Mes respects, mon général. Je veux d'abord vous dire toute mon admiration. Et ma question sera brève. En tant que officier supérieur du deuxième, comment dire, en deuxième section, quel rôle continuerez-vous à exercer parmi vos camarades ?
Le titre de mon livre, c'est « Servir ». Et les militaires n'ont pas le monopole du service. On peut servir la France, on peut servir ses valeurs différemment. Heureusement, je suis ce matin chez RTL, les journalistes qui informent les Français servent la France aussi. Vous le savez, il y a bien d'autres façons de servir la France. Et c'est ce que j'envisage maintenant. Je vais m'occuper de la jeunesse. Je vais m'occuper, évidemment, de donner cette espèce de transmission des valeurs que l'armée m'a donnée il y a 43 ans quand je suis rentré. C'est ça que j'ai envie de faire. On peut servir autrement.
Page 252 de votre livre, « Je continuerai à servir mon pays autrement ». Julie, elle, au 64-900, vous pose la question directement. « Maintenant que vous n'êtes plus tenu au droit de réserve, allez-vous vous engager en politique ? Et si oui, dans quel parti ? » Alors, est-ce que vous êtes tenté, par exemple, par un engagement politique, Pierre de Villiers ?
Non, car je suis un soldat et que je suis très respectueux de la loyauté républicaine des armées au pouvoir politique. Je n'ai pas été choqué par le président de la République, sur « Je suis votre chef », c'est naturel. Il est le chef et les armées doivent l'obéissance au chef. Moi, je ne ferai pas de politique parce que j'ai envie de servir autrement, mais pas dans la politique. Et on peut faire des choses très intéressantes. Les hommes politiques servent leur pays à leur façon. Moi, j'ai envie de servir à ma façon.
Merci Simon de nous avoir appelés. On va maintenant donner la parole à Jean-Claude qui nous téléphone de Bordeaux dans le département de la Gironde. Bonjour Jean-Claude, le général Pierre de Villiers vous écoute.
Merci, bonjour Monsieur Calvi, bonjour général. Ma question va être simple, quel avis portez-vous sur les anciens Français, femmes et hommes devenus zéhadistes et souhaitant maintenant revenir au pays ?
C'est un sujet extrêmement délicat, bien évidemment. Je crois qu'il faut faire du cas par cas. C'est ce qu'a d'ailleurs déclaré le président de la République. La question que je me pose, c'est pourquoi les jeunes sont partis chez Daesh ou dans d'autres types de mouvements islamistes radicaux et comment empêcher qu'ils continuent à être séduits par cette idéologie mortifère qui érige la barbarie, non pas en moyen, mais en finalité. Et je crois qu'il faut que nous ayons une réflexion sur ce plan. Dans mon livre, je parle de la jeunesse, dans le dernier chapitre. Ce n'est pas un hasard, parce que j'estime que nous avons une belle jeunesse. Il faut réfléchir pourquoi cette jeunesse peut aller jusqu'à être séduite par ce type d'idéologie et regarder pourquoi nous, en quelques mois, d'un jeune parfois déstructuré, défavorisé, en difficulté, parfois nous faisons un héros qui va sous le feu chercher son camarade. Il faut que nous ayons cette réflexion.
Bonjour Jean-Claude.
Bonjour RTL.
Vous nous appelez de Vierzon dans le Cher et le général Pierre de Villiers vous écoute.
Mes respects, mon général, et mon admiration pour votre carrière et votre courage. Moi, c'est une question qui me trotte depuis longtemps. Est-ce que vous ne croyez pas que ça a été une erreur de supprimer totalement, disons, l'armée de conscription ?
Bonjour monsieur et merci de votre entrée en matière. Je n'ai fait que mon devoir et quand on a l'honneur de commander des soldats d'une telle qualité, c'est assez facile. Le débat sur la conscription, il a eu lieu en 1996, la décision a été prise, elle est suspendue. Je comprends bien votre question. Pour que la jeunesse ait un sentiment d'appartenance, une colonne vertébrale pour appartenir à cette communauté d'hommes et de femmes qu'est la nation. Cette réflexion mérite d'être entreprise et l'annonce par le président de la République du service national universel a vocation à répondre en partie à cette question. Maintenant, ceci pose trois difficultés concrètes. Premièrement, combien ça va coûter? Deuxièmement, l'infrastructure. Troisièmement, l'encadrement. En tout cas, nous avons une armée professionnelle. Nous pouvons apporter notre pierre à l'édifice. Mais c'est une démarche forcément interministérielle et globale au niveau de l'État français. J'ajoute que nous faisons déjà beaucoup pour les jeunes.
Votre réponse est oui, en fait.
Nous faisons beaucoup pour les jeunes. Et c'est ce que je veux souligner par rapport à la question de notre auditeur. Nous incorporons 25 000 jeunes par an. Rendez-vous compte. Plus de la moitié de nos effectifs militaires ont moins de 30 ans. Ensuite, le service militaire adapté dans les DOMCOM, le service militaire volontaire que nous avons créé il y a moins de 2 ans. Tout ceci participe à cette notion d'appartenance à une communauté d'hommes et de femmes. C'est un débat très politique, mais c'est un débat important qu'il convient probablement d'avoir.
Merci Jean-Claude de votre question. Nous allons continuer d'aborder tous ces problèmes bien spécifiques avec Cyril qui lui vous appelle du département de l'Oise. Bonjour Cyril, le général de Villiers vous écoute.
Oui, mes respects mon général. J'ai une question à vous poser. Ça fait 1 an et demi que j'ai commencé à faire les démarches pour être réserviste dans la gendarmerie. Et à la date d'aujourd'hui, il me reste une signature à mettre sur un dossier et je ne sais pas exactement où il est.
Alors, je vais commencer par vous dire que la gendarmerie a un statut militaire, mais sa structure hiérarchique est maintenant au ministère de l'Intérieur. Plus globalement, je pense que la garde nationale va créer une vraie dynamique pour avoir des réserves qui soient des vrais professionnels à temps partiel.
Et
J'ai beaucoup d'admiration pour les réservistes qui s'engagent. Il faut les soutenir. C'est aussi pour ça qu'il faut un peu d'argent, parce que malheureusement, c'est le nerf de la guerre. Et une des raisons pour lesquelles tous ces contrats traînent, c'est aussi une raison budgétaire, en tout cas souvent. On doit pouvoir progresser, notamment au plan administratif, mais je suis admiratif pour tous ces civils qui viennent consacrer du temps pour la défense de leur pays.
Merci Cyril de votre appel. Maintenant, c'est Dominique qui est enseignante et qui vous interroge, Pierre de Villiers. Elle nous appelle de Brive. Bonjour Dominique.
Bonjour Monsieur Calvi, mes respects mon général, en saluant chez vous un grand serviteur de la France. La France, notamment en Europe, a longtemps été une grande puissance militaire qui a assumé des missions extérieures importantes. A-t-elle encore les moyens matériel humain de remplir les objectifs qui ont été fixés? Et depuis combien d'années les déclarations et le concret sont-ils en, on va pas dire en opposition totale, mais pratiquement?
Vous êtes au cœur du livre du général de Villiers qui vous répond.
Merci.
Alors, la question que vous posez, je vous remercie de cette question, c'est la cohérence entre les besoins et les ressources, les menaces, les missions et les moyens. Il est clair qu'à la fin de la guerre d'Algérie, nous étions à plus de 5% du produit intérieur brut consacré aux dépenses de défense. Nous sommes à 1,4% aujourd'hui à périmètre comparable. Donc vous voyez bien que la pente a été régulière. Simultanément, il est clair aussi que les menaces sont là, à la fois l'islam radical et les États-puissances qu'il ne faut pas oublier. Donc c'est précisément le débat qu'il convient d'avoir. Je crois que nous avons de belles armées, mais qu'il faut les régénérer au plus vite et leur donner les moyens. J'ai cité quelques exemples tout à l'heure. Je peux vous donner une illustration. À Belfort, l'hiver dernier, dans un atelier de réparation, on travaillait à 2 degrés parce que le chauffage était en panne et qu'on n'avait pas l'argent pour le réparer. Est-ce normal? Est-ce qu'on peut attendre 2020-2022? Je réponds non. Ces jeunes qui travaillent pour réparer les véhicules qui sont prêts en opération et y laisser leur peau. Je rappelle qu'on a beaucoup d'attaques sur des convois logistiques et ces mécaniciens. On doit leur donner tous les moyens. Moi, j'avais 2 soucis quand j'étais chef d'état-major. Protéger la France et les Français et donner à nos militaires les moyens de leur mission.
Pierre de Villiers, une question très précise. Aujourd'hui, qui sont nos ennemis? Vous avez dit tout à l'heure, Elisabeth Martichoux, que dans ce livre, vous souhaitiez éclairer les Français sur ce que vous appelez la menace. On comprend très bien ce que ça veut dire. Mais aujourd'hui, pouvez-vous répondre simplement et clairement à cette question? Qui sont nos ennemis? Qui nous menacent?
Bien sûr. Je consacre deux chapitres à l'analyse de la situation géostratégique internationale, sachant que l'histoire s'écrit sous nos yeux et que la guerre est en train de changer de visage. Et donc, l'ennemi, c'est simple, il y a deux lignes de conflictualité. Il y a le terrorisme islamiste radical, dont on voit qu'il frappe dans le monde entier, en Europe et en France. Et puis, il y a le retour des États-puissances. Ces deux lignes de conflictualité sont distinctes, mais elles ne sont pas disjointes. Si vous prenez le cas de la Syrie, on voit bien qu'on lutte en Syrie pour éradiquer Daesh, Al-Qaïda et les mouvements terroristes extrémistes, mais que, parfois sur 20 km de côté, vous avez des soldats de plusieurs pays qui sont là aussi au titre des États-puissances. Donc c'est cette situation que nous avons à gérer. J'ajoute que tout ceci se fait sur fond de migration incontrôlée qui ne simplifie pas les choses. Donc je crois que ce monde est dangereux et que nous ne pourrons pas dire que nous ne savions pas.
Hier, le président de la République, avant son arrivée en Arabie Saoudite, expliquait que nous avions gagné cette bataille, cette première bataille contre Daesh. Vous partagez la même analyse?
Oui, et j'y ai mis beaucoup d'énergie, modestement, car la France, évidemment, n'est pas seule, c'est la coalition qui a gagné. Mais nos avions, nos bateaux, nos hommes, la formation que nous avons apportée, tout ceci a concouru à la victoire contre Daesh en Irak et en Syrie. Et je me réjouis d'avoir vu ces derniers mois la chute de Mossoul et de Raqqa. Mais la chute de Daesh, telle que nous l'avons vécue, ce n'est pas la fin de l'islam radical. Je rappelle qu'il y a d'autres mouvements.
C'est une bataille qui a été gagnée, n'est pas la guerre.
C'est une bataille. Nous n'avons pas gagné la guerre. La guerre sera longue. Et elle peut changer de visage.
Le ministre de la Défense réagit à la publication de votre livre. Il y a quelques instants, Mme Parly déclarait que le général de Villiers veuille écrire un livre pour partager ses réflexions après une très longue carrière. Je peux le comprendre, mais mon rôle à moi, c'est d'agir et de regarder le futur. Vous avez envie de réagir à cette réaction, si je puis dire?
Écoutez, elle a tout à fait raison. Je crois que chacun est à sa place dans cette affaire. Moi, je veux apporter mon expérience. Je veux être en capacité d'expliquer aux Français ce qui est en train de se passer. Et puis, je veux aussi, je rappelle, insister sur deux messages. L'unité nationale, ce n'est pas le moment de se diviser, franchement. Et l'espérance, parce que je vois beaucoup de gens très pessimistes
partout. En quittant vos fonctions, vous n'avez pas participé à cette division?
Absolument pas. C'est précisément pour que cette unité, cette colonne vertébrale entre le chef d'État, président de la République, chef des armées et son chef d'état-major, pour que cette colonne soit parfaite et qu'elle soit garantie d'unité, que je suis parti.
Donc ça se passait quand même bien entre vous deux, c'est une histoire d'homme aussi.
Ce n'est pas une histoire d'homme qui a fait que j'ai démissionné, c'est clair. C'est d'abord une divergence de fond qui a été ensuite accru par cette divergence de forme.
Merci beaucoup Pierre de Villiers. Je rappelle que votre livre « Servir » paraît aux éditions Fayard. Merci d'avoir établi ce dialogue avec nos auditeurs qui ont été nombreux à vouloir vous interroger ce matin sur l'antenne d'RTL. Je vous souhaite une excellente journée.
Merci à vous de m'avoir invité.